pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
TER ou RER, la communale ou la cato, y enseigner ou pas, quel degré de compromis accepter, c'est comme le côté de mes églises ou celui de Guermantes, le fromage ou le dessert, partir ou rester. Aujourd'hui, dans le dernier épisode de Mortefontaine, ce sont des choix à faire, des décisions à prendre, des alternatives qui en sont ou pas, et qui en disent peut-être autant sur notre volonté, sur ce qu'on veut, que sur ce qu'on est, sur qui nous sommes. On se demandera à cette occasion ce que peut vouloir dire choisir. Que se passe-t-il quand il y a deux objets et que l'on doit en choisir un plutôt que l'autre? Et est-ce qu'on choisit toujours ce qui est conforme à notre intérêt, à notre profit? Est-ce qu'il ne nous arrive pas de faire des choix qui vont contre notre volonté ou notre éthique, comme fumer ou dire du mal de ses amis pour plaisanter? En économie, si j'ai bien compris, la théorie du choix rationnel suppose, comme son nom l'indique, que les individus font des choix rationnels, des choix individuels, qu'ils ont réellement des préférences si on leur propose différentes possibilités. Elle suppose que les habitants de Mortefontaine vont prendre en compte les différentes informations à leur disposition sur les moyens de transport ou les offres éducatives, qu'ils vont inclure un bref calcul des probabilités sur la fréquence des RER et des TER, le coût de l'école et le bénéfice pour l'enfant, les pannes de train et le temps de trajet, et qu'ils feront chacun d'entre eux individuellement un vrai choix. A l'inverse, d'autres pensent que nos choix sont parfois dus au hasard, impulsifs ou qu'ils sont conditionnés, déterminés par des facteurs sociologiques, par exemple, comme la reproduction ou l'imitation passive. Ces deux façons de penser sont très opposées. Vous avez une demi-heure pour en choisir une, et on verra aussi dans ce dernier épisode, plein de suspense et signé Léa Weinstein, qu'il y a même une façon poétique d'envisager la question du choix. Les pieds sur terre, c'est sur France Culture, tous les jours, en podcast et aussi en streaming.
Il y a quelques mois, j'ai quitté Paris pour m'installer dans un village de Picardie. Maison à louer, 95 mètres carrés, petit jardin paysager clos de murs, dans village recherché, proche à 1, proche Roissy.
Vous êtes la dame de Mortefontaine.
Village calme, école, lycée privé réputé. Un village du nom étrange de Mortefontaine.
Il n'y a pas grand-chose à Mortefontaine, hein.
Comment on peut dire, c'est ni la province, ni la banlieue
c'est
ici.
C'est ça, en fait. Et Mortefontaine, c'est la meilleure ville que je connais ici, en France.
Je disais que Mortefontaine est mort.
T'as envie de parler avec quelqu'un, il faut aller le chercher.
J'aurais voté Le Pen.
J'aurais voté Marine Le Pen.
Ça fait des années que je vote France.
On a envie de réveiller cette ville. On a envie de tenir cette ville vivante.
C'est la banlieue. Non, ça va pas. La banlieue, on est vraiment termo.
La pro-lieu.
La pro-lieu, ouais, c'est mieux ça, pro-lieu.
Épisode 5, réinventons la Picardie. Aujourd'hui, on est le 25 novembre et j'ai 31 ans. Je fête mon premier anniversaire à Mortefontaine. Mes amis sont venus de Paris. Il fait un froid glacial, mais c'est joyeux. Ça fait presque un an qu'on s'est installé ici, dans ce village de 800 habitants, au début de la Picardie. 7 mois exactement que j'ai commencé mon exploration. Alors 7 mois plus tard, où en est la vie à Mortefontaine? Où en sont ceux que j'ai rencontrés et qui sont parfois devenus mes amis? David, Leïla, Lucille et l'émir. Est-ce que je peux dire que je me sens ici chez moi? Derrière chez moi, il y a une route qui s'appelle la route Gérard de Nerval. D'un côté, il y a une des entrées du château de Vallières, monument néo-romantique construit par le duc de Gramont, grand-père de la propriétaire de notre maison. Elle l'a revendu à un émir que j'essaye de rencontrer depuis plusieurs semaines. Mais depuis ma lettre, silence, je n'ai reçu aucune réponse. Sa masseuse ne m'a jamais rappelé non plus. Mais grâce à Lucille, belle-fille de la comtesse, j'ai pu franchir l'autre grille de la route Gérard de Nerval. celle qui est en face du château, la grille de l'Institut Saint-Dominique. Lucille, à qui j'ai dit que j'avais été prof de philo avant, veut me faire rencontrer le proviseur. Il m'invite d'abord à un déjeuner donné pour les 70 ans de l'école.
Nabucodonosor, roi de Babylone, écrivait cela en 4 lettres. J'ai des souvenirs, voilà. On était en classe de neige avec Mère Marthe Marie quand j'étais en 6e. Ça devait être en février 1969 ou 70. Voilà. 3 semaines à Valoir, dont je garde un excellent souvenir. Voilà, Mère Marthe Marie était notre maîtresse de classe, maintenant on dirait professeur principal, mais on n'employait pas cette expression-là. De même qu'on disait pas Saint-Dô, on disait Mortefontaine. L'époque où on était en uniforme, la jupe bleu marine plissée avec le chemisier d'uniforme, le pull d'uniforme de chez Mambi. Après tout ça, ça a changé. Il y a 68 qui avait été passé par là. Dans les années qui ont suivi, toi quand t'es arrivée en 4e, on était déjà au pantalon, je crois.
Oui, les pantalons étaient autorisés.
On était avec Catherine, avec France, avec Florence, avec Catherine Ruel, etc., etc. Cette année scolaire où on était 8 Catherine, il y avait 8 Catherine dans notre classe. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ma sœur. Ça les amusait beaucoup quand les professeurs disaient Catherine, ça les amusait beaucoup de se lever tout ensemble. Moi aujourd'hui je suis professeure ici. Je suis arrivée à l'ouverture du lycée, je me suis dit ce poste est pour moi. Et aujourd'hui, M. Bernard nous a annoncé, voilà, l'année prochaine, il y aura 1410 élèves scolarisés à Mortefontaine. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a 20 bus. Voilà, mais moi j'ai connu l'époque où ils ont mis en place le premier.
Ce jour-là, je me retrouve au milieu d'une espèce de jubilé de ce que les anciennes élèves appellent avec nostalgie les années Mortefontaine.
Léa, Monsieur Bernard.
Je rencontre aussi Monsieur Bernard, le proviseur, et on évoque l'idée que je fasse des cours de philo ou des ateliers. Il serait possible pour moi de travailler ici, à Mortefontaine, autant dire que c'était inespéré. Reste un problème, le degré de religiosité demandé. Je ne suis jamais allée dans un lycée privé de ma vie et je ne connais vraiment pas grand-chose à la religion catholique. Est-ce que ça peut coller ?
De te servir, toi qui règnes au siècle des siècles.
Amen.
Bon appétit.
Merci.
Alors, je suis Dominique Bernard, chef d'établissement coordinateur de l'Institut Saint-Dominique à Mortefontaine. Donc, je suis dans ma 23e année de direction. De manière peut-être audacieuse, j'ai fait le choix de rappeler que notre projet fait explicitement référence au message d'amour de l'Évangile, tout en précisant que je ne demanderai jamais à mes élèves, à mes futurs élèves, de se convertir. Simplement, une exigence, c'est que toutes et tous, quel que soit leur parcours, leur référence religieuse, spirituelle, philosophique, acceptent de reconnaître Jésus-Christ comme maître de sagesse. Ça semble avoir plutôt, je dirais, rassuré les familles. Mais il est vrai que le religieux, quand on n'est pas, je dirais, on n'a pas grandi, non, peut mettre mal à l'aise. Il y a quelques années, c'est anecdotique, j'avais embauché une secrétaire comptable qui n'est pas restée, qui m'a dit « Monsieur Bernard, je vais être honnête avec vous, je trouve que c'est pesant parce que je croise des sœurs en habit et moi c'est pesant d'aller prendre mes repas et de croiser des sœurs ». Et je l'ai remercié, j'ai dit « Écoutez, c'est honnête de votre part, si vraiment vous ne vous sentez pas bien, eh bien, voilà, effectivement ». Je ne demande pas de partir, mais si vous pensez que c'est mieux de partir, il vaut mieux partir.
Donc comme moi je suis prof de philo de formation, et qu'on avait évoqué éventuellement d'organiser des ateliers.
Tout à fait,
ici,
absolument, absolument.
Qu'en est-il pour vos enseignants ici de philosophie ? Est-ce qu'ils enseignent des auteurs comme Nietzsche ? Et vous m'aviez dit
oui,
mais il est vrai qu'on peut avoir des parents après, derrière, qui...
Alors ce que je demande aux enseignants, c'est d'éviter quand même ici des choix de textes qui soient perçus par les élèves, je dirais, qui partageraient une autre opinion comme une remise en cause de leurs propres convictions.
Ce n'est donc pas à Nietzsche, le théoricien de la mort de Dieu, que je vais pouvoir consacrer mon atelier philo. Même s'il est au programme, il n'a pas l'air vraiment bienvenu à Mortefontaine.
Et vous avez une idée de ce que représentent à peu près les familles qui vivent ici dans le village ?
80% en fait des enfants du village fréquentent l'Institut Saint-Dominique. Pour des, alors, je dirais là, pour ce qui concerne Mortefontaine, il y a la proximité et il semble d'ailleurs que des familles s'installent à Mortefontaine parce qu'ils savent qu'ils peuvent scolariser leurs enfants de la maternelle à la terminale. Nous avons une vaste cour qui permet que les élèves se rangent à 8h30, à 10h30 et à 13h45. Au moins 3-4 fois par semaine, il m'arrive de prendre la parole au moins 5-10 minutes au fil de ces rassemblements pour transmettre un certain nombre d'informations et surtout eh bien, prendre le temps avec eux d'une relecture de ce que nous vivons dans l'établissement.
Le temps de l'Avent est comme le temps du Carême, un temps de partage et d'invitation à aller davantage vers les autres, alors que il arrive que Noël soit d'abord pour nous le temps des cadeaux et avec une question, que vais-je recevoir ? Peut-être aussi ne pas oublier eh bien, qu'il est important de donner. Et d'ailleurs, l'évangile de ce jour que je vais vous lire eh bien, relate l'histoire d'une pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle a pour les pauvres. Et Jésus, d'ailleurs, de dire finalement, elle a donné beaucoup plus parce qu'elle s'est privée, je dirais, de tout ce qu'elle possédait.
Le prix est de 100 € par mois et par élève, auquel s'ajoute la demi-pension.
Quelle est la place de la religion catholique ? Parce que c'est une école catholique ici.
Il faut pour trimestre. Enfin, assez régulièrement, il y a une messe qui est organisée à Saint-Do. Et donc, il y a tous les gens qui se pratiquent qui peuvent se retrouver là-bas. Et puis.
Par contre, c'est pas nécessaire d'être pratiquant de religion catholique pour entrer ici. Alors, Monsieur Bernard veut juste qu'on reconnaisse Jésus comme un homme, je sais plus comment il dit, un homme dont la parole, reconnaître la parole de Jésus, c'est ça ?
Au moins le reconnaître comme prophète, je pense, non ?
Oui,
c'est ça. Et tu disais que vous aviez des copains qui étaient soit athées, soit d'autres religions, musulmans et tout, et eux, ça va, ils ont l'air de bien le vivre, de reconnaître Jésus, ça les... Ils font abstraction un peu, tu penses ?
Oui, je pense. Je crois pas que ça les dérange non plus, parce que sinon, ils l'auraient dit, mais voilà.
D'accord.
Ils ont quand même, enfin, ils savent dans quoi ils s'engagent aussi quand ils rentrent dans l'école, parce que c'est quand même une école catholique avant tout. Donc, je pense que s'ils rentrent dans l'école, ça les dérange pas vraiment.
Depuis 7 mois, on m'en a beaucoup parlé dans le village de la cantine de Saint-Dominique. Vous vous souvenez peut-être que c'est là que sont emmenés le midi les enfants de l'école publique, qui n'a pas sa propre cantine. Enfin, ceux dont les parents ont les moyens de payer 9 € par repas. Quand ils arrivent, les enfants me disent « Nous, on vient de l'école d'en bas ». Ils sont dans une salle à part, encadrés par Laurence et Florence, employés par la commune.
Des fois, on en a 30. Ils ont 3 ans pour la plupart. Ça fait beaucoup.
Et vous êtes toute seule à...
On est deux. Oui, je te donne à boire. Attends 2 minutes. Ah, il faut tout leur faire. Je fais la garderie le matin et je finis la garderie le soir. Je fais 10h30 par jour, sans pause. Parce que avec les enfants, il n'y a pas de pause.
Et vous êtes depuis longtemps dans cette école de Mortefontaine ?
La petite école, 30 ans. J'ai ici des lycéens, des collégiens que j'ai eus à l'âge de 3 ans. Allez, Timéo, tu manges ce que tu veux.
Je me sens plutôt bien dans le village. J'ai l'impression qu'on y a trouvé notre place. Les gens nous connaissent. On a nos habitudes, nos trajets, nos arrêts et les gens qu'on aime bien aller voir. Leïla qui a gardé mon fils au début, Mina qui nous vend des légumes et le petit square.
On va aller donner à manger aux oiseaux.
Jérémy fait maintenant pousser du blé d'hiver dans le jardin.
Parce que j'ai acheté une mangeoire pour nourrir les oiseaux et je leur mets des graines de tournesol et ils viennent tous là, les mésanges, les rouges-gorges, tout ça. Et quand je suis allé au magasin pour acheter la mangeoire et les graines, j'ai trouvé un vendeur et je lui ai dit « Bonjour, c'est où les mangeoires à oiseaux ?» Et le gars m'a dit « C'est pour les oiseaux du ciel ?» Et du coup, je l'ai regardé un peu bizarrement parce que je me suis dit « Mais il est débile ou c'est un poète ou... Il était très sérieux et en même temps, je me suis dit, est-ce que je me suis trompé, c'est peut-être pas un vendeur. Et je lui ai dit, bah oui, oui, pour les oiseaux du ciel et tout. Et donc, il m'a amené au mangeoir. Et là, je viens de voir sur le paquet de graines de tournesol, c'est marqué derrière. C'est un aliment indispensable pour les oiseaux en raison de la réserve d'énergie que procurent les graines, en particulier l'automne et l'hiver, pour les oiseaux du ciel. Et donc, en fait, je viens de comprendre que non, en fait, c'est comme ça qu'on appelle les oiseaux sauvages, quoi. Et que les oiseaux pas du ciel, c'est les oiseaux de cage, sûrement. Ouais. Donc là, on va nourrir les oiseaux du ciel. On met les graines. Et puis là, il y a les dernières betteraves. Là, les framboisiers, ça y est, c'est fini. Ils ont donné des framboises jusqu'à fin novembre, quasiment. On va faire la confiture maintenant, avec tout ce qu'on a congelé. Et ça, c'est du blé. J'ai planté du blé d'hiver, que j'ai trouvé chez un paysan à côté. Le but, c'est de faire une miche de pain. Il y a toutes les feuilles mortes que j'ai pas ramassées. Mais le vent les chassera à ma place.
Je crois que si on est plutôt bien ici, c'est aussi parce qu'on a réussi en quelques mois à apprivoiser le rapport à l'extérieur, les distances. On peut vivre bien à Mortefontaine à condition de pouvoir en sortir. Leïla, qui avait déposé une annonce pour qu'on l'aide à passer le permis, ne conduit toujours pas. Elle n'a eu aucun appel et continue à faire 7 km à pied pour faire ses courses quand personne ne peut l'emmener.
Ça va ?
David, réfugié du Congo, hébergé chez Lucille, aimerait bien lui aussi pouvoir sortir. Mais il est un peu coincé là.
Je suis toujours à Mortefontaine. Je crois que je finirai par être enterré ici. Mais bon, je suis là. J'ai reçu d'ailleurs un courrier, voilà. Alors, j'ai l'honneur de vous informer en application de l'article R du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision ne pourra être rendue dans les délais de 6 mois à compter de l'introduction de votre demande, soit avant le 23 novembre 2017. Voilà, donc j'attends.
Et comment ça va la vie à Mortefontaine en attendant alors ?
Ben ici c'est toujours pareil. Hein. Je suis un petit peu là dans ma forteresse. Je travaille de temps à autre. Donc là avec le froid, j'ai pas de vélo. On m'a volé la selle. Ensuite la roue a commencé à avoir un problème. Ensuite j'ai commencé à utiliser les vélos en fait que j'ai hérité de la petite qu'on a encore volé. C'est un peu cauchemardesque. Ça va bientôt faire au mois de février, ça fera une année, donc ce qui est quand même sûr, c'est qu'ici tu vis pas trop. Tu vois, t'as pas d'amis à côté, c'est quand même un peu chaud quoi.
Et alors dis-moi, pour samedi, donc tu pars à Lyon, c'est ça?
Ouais, samedi je pars à Lyon. J'ai un rendez-vous avec une vieille amie dans une histoire amoureuse. C'est décidé de s'y revoir pour passer un week-end.
Ce samedi, il me demande si je peux l'accompagner à la gare. Car sans voiture, elle est inaccessible.
Bah, je t'en prie, David, profite ouais. Bien de ton week-end. Amuse-toi bah, bien à Lyon.
Merci, je te dirai. Je pense que ça doit être super sympa.
Bah oui.
Je laisse David devant cette gare que je connais bien. Comme les trois quarts des gens ici, je travaille principalement à Paris. Et j'y ai toujours mes amis, ma famille. Je sais maintenant comment y aller et à quel moment. Mais ça n'a pas été facile au début. Ces 35 km me paraissaient comme une montagne à gravir. Tous les jours, c'était « comment j'y vais ?». Je passe entre 2 et 3 heures par jour dans les transports. Les retards et les aléas font partie de ma vie maintenant.
Mesdames, messieurs, bonsoir. La région Hauts-de-France, votre chef de bord à l'équipe de l'heure, vous souhaite la bienvenue à bord de ce train de verre numéro 847.
Ici, il y a 3 options, entre lesquelles j'ai appris à jongler en fonction des horaires et des situations. La voiture, le TER ou le RER.
Les voyageurs n'ayant pas acheté vos billets
sont invités à TER ou RER. Comment choisir? Ici, c'est une question identitaire, et même un peu politique. En gros, les plus riches prennent leur voiture, les moins riches prennent le RER, et entre les deux, disons la classe moyenne du voyageur, c'est le TER, sur lequel il est écrit en gros « Ensemble, réinventons la Picardie ». Mais vu les dysfonctionnements de la ligne, ce slogan sonne un peu ironique. Vous attendez le TER ou le RER ?
Non, TER. En fait, on peut prendre les deux. Le RER met 45 minutes, le TER met 20 minutes.
Ouais.
Donc, quand on travaille à Paris, c'est un gain de temps, tout simplement.
Et vous venez en voiture à la gare ?
Non, jamais. Moi, je prends le bus.
Ah oui.
J'ai pas de véhicule.
Oui, on prend le bus. Ouais. Donc, par contre, ça, c'est un problème. Moi, à la base, je suis parisienne. Hein, et je me suis installée ici pour le cadre de vie, en fait. Bon, le cadre de vie est sympa, voilà. Mais le problème, c'est qu'à Paris, on est tellement habitué même à prendre les Uber et tout ça. Et là, il n'y a vraiment rien. Même les taxis, c'est compliqué. Voilà. Et les cars, en fait, c'est très compliqué parce que les cars, il n'y en a pas forcément tout le temps. Là, vous voyez, par exemple, moi, j'habite la Morlaix. Si je prends celui de 8h34, si je le loupe, je prends celui de 9h. Après, c'est 10h. Vous vous rendez compte, quand vous travaillez, moi, je travaille à mon compte. Hein. Donc, ça veut dire la dernière fois, j'ai loupé deux clientes. Parce que comme j'ai raté mon car, du coup, les clients qui devaient arriver en début de matinée, eh ben, il y a eu des problèmes. On est arrivé ici, la gare était fermée. Donc, du coup, on s'est rabattu sur le RER. Donc, à 45 minutes. Tout ça, ça fait boule de neige, quoi. Et donc, vous arrivez à Paris, même, je pense, même pour quelqu'un qui travaille pour un patron, vous arrivez pratiquement constamment en retard.
Très fréquent. Depuis moi pareil, hein, je suis revenu dans la région, ça fait depuis 5 ans, il y a constamment des retards. Et si, quelquefois, ils ne mentionnent pas tout le temps les motifs. Et c'est quotidien, si ce n'est pas le matin, c'est le soir. Et ça dure depuis au moins, là, je vais être gentil au moins 3 ans. Quoi. Moi, je travaille dans les livres, voilà.
Les livres,
oui. C'est-à-dire en bibliothèque, en médiathèque, voilà.
D'accord, à Paris donc.
Non, pas du tout à Paris. Moi, je travaille justement dans la banlieue est de Paris. Donc, je mets en fait par jour 4 heures de transport par jour. J'ai 2 heures aller, 2 heures retour.
Moi, je prends des clients jusqu'à 20 heures. Hein. Donc, du coup, voire je finis à 21h. Parfois, vous arrivez à la gare du Nord, il n'y a pas celui de 21h49. Bon, là, je dors chez mon frère. Hein. J'ai pas le temps. Jeudi, vendredi, samedi, je dors chez mon frère. Les autres jours, vous arrivez, c'est pas normal, il n'y a pas de car à 20h. Il y en a un, parfois vous êtes en retard, il n'attend même pas, vous arrivez, hop.
Et vous regrettez du coup d'être venu vous installer ici
Franchement, oui, je recherche un appartement à Paris, pour être honnête.
Et vous n'avez pas essayé le RER? Ça ne marche pas mieux, le RER? Non,
personnellement, j'aime pas le RER. Hein, d'abord. Il y a beaucoup de monde et puis il est trop long.
Pourquoi TER et pas RER?
Parce que 20 minutes au lieu de 45 minutes. Pareil, le train est chauffé, on a un train qui est plus confortable, qui est plus sûr. Je travaille à Paris, j'habite dans l'Oise, je prends le train Henri-Laville. Et tous les jours, enfin quasiment tous les jours, c'est enchaînement de galères.
Ça vous pose problème dans votre travail
Alors oui, alors moi en l'occurrence je travaille avec des enfants, donc je ne peux pas me permettre d'arriver en retard. Si je suis en retard, les enfants sont tout seuls dans la nature, donc c'est pas possible. Donc je suis obligé de prendre toujours un train, au moins un train avant, et ça fait perdre plusieurs heures par semaine. Quoi. Les gens qui prennent le RER, il y a beaucoup de gens de Creil, qui est une ville un peu plus dortoir, un peu plus pauvre. Les personnes qui n'ont pas forcément un travail dans une entreprise qui va leur rembourser leur transport, tous ces gens-là, ils ne peuvent pas avoir d'abonnement, donc ils peuvent pas avoir un tarif normal. Quoi. C'est 15 euros en aller-retour pour aller de Henri-Laville à Paris, par exemple. Alors que l'abonnement mensuel, quand on travaille, c'est 22,70 €.
Ouais, donc c'est vraiment un truc un peu discriminant, finalement, RER au CER.
C'est ça.
Je vous rappelle que nous arrivons à Henri-Laville, on a un retard d'environ 55 minutes suite à une arrivée tardive du matériel. Nous excusez pour
la... Sur cette ligne D du RER, la frontière entre province et banlieue se dessine par la fenêtre. À force de regarder, j'ai appris à reconnaître pile le moment où on la traverse. Stade de France Saint-Denis, Pierre-Fitstein, Garges-Sarcelles, Villiers-le-Bel, Gonesse-Arnouville, Goussainville, Lesnoux, Louvre, Survilliers-Fosse, La Borne-Blanche, Horry-la-Ville. Je descends à Horry-la-Ville. La frontière est facile à percevoir au printemps car les couleurs changent. Du gris béton, on passe insensiblement à des touches de vert, puis d'un coup, le jaune, celui des champs de colza. C'est entre Lesnoux et Louvre que ça se passe. En hiver, le jaune n'explose pas à la fenêtre, mais on peut voir le gris s'effacer petit à petit. La ville, qui s'est tellement étalée, finit ici par renoncer à s'étendre et accepte de devenir, à l'inverse, peau de chagrin. Il faut bien que la ville s'arrête. Nous, on a eu envie qu'elle disparaisse un peu de notre vie, Alors je prends un certain plaisir à la voir disparaître de mon champ de vision, comme ça, par la fenêtre. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai l'impression de rentrer chez moi. Mais est-ce que Paris, c'était chez moi ? Je ne sais pas non plus combien de temps on va rester ici. Maintenant qu'on est installé et qu'on parle un peu avec les gens, on trouve que 1 200 € pour notre maison, c'est hyper cher. On se demande même si ça vaudrait pas le coup d'emprunter et d'acheter. Mais on a appelé le bureau de la comtesse, il n'est pas question qu'elle vende. Et ce serait sans doute pas dans nos moyens.
Voilà, là j'arrive à la fameuse fontaine qui donne son nom au village et qui donc ne coule plus, avec un poème en ancien français qui est gravé ici. Passant, je viens ici me rendre au désir, aux besoins de l'homme et des troupeaux. En puisant les trésors de mon urne féconde, songe que tu les dois à des soins bienfaisants. Puissais-je n'abreuver du tribut de mon onde que des mortels paisibles et contents.
Donc pour l'instant, on reste locataire et on reste ici. Je crois qu'on peut dire qu'on se sent bien, et puis c'est pas vraiment le moment de déménager. Je vais peut-être animer un atelier philo à Saint-Dominique, et mon fils va bientôt rentrer à l'école du village. Et puis maintenant, ça y est, quand on me demande mon adresse, j'ai pris l'habitude de dire 60128, Mortefontaine. Oui, oui, en un seul mot. Comme une fontaine morte.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, Mortefontaine, dernière et cinquième épisode, Réinventons la Picardie, une série de Léa Weinstein réalisée par Cécile Lafond, disponible à l'écoute, à la réécoute, en podcast et en streaming. Merci à Dominique Bernard, à son équipe, aux élèves du lycée Saint-Dominique, à Laurence, à Florence de la Petite École, aux usagers rencontrés dans le TER et le RER, à David, à Jérémy, à Dara et spécialement à Paloma, spécialement également à Cécile Lafond qui a fait un gros travail pour cette émission. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Elle est irremplaçable, comme chacun sait.